Une question que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, et en la présentant pour mon collègue et camarade Gaël Navarre, qui est ici en photo évidemment, avec qui on collabore sur un programme. Il est désolé de ne pas pouvoir être présent avec nous aujourd'hui, mais on est proche collaborateur depuis le début pour un projet qu'on mène au Conservatoire de Nice et au laboratoire CTELA, Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants, ainsi qu'au centre de référence en réalité étendue et en immersivité qui s'appelle XR2C2 à l'Université Côte d'Azur. On regroupe un certain nombre de laboratoires, notamment un laboratoire en informatique, I3S, et en électronique aussi, le LEAT. Et donc, ce projet, depuis un moment, alors donc, je suis vraiment désolé, j'avais prévu, enfin, je pensais qu'on aurait une taille de projection bien plus grande, donc c'est créé assez petit. Mais ce qui est important, c'est surtout ce qui est en bleu, finalement. Donc, le projet, c'est de travailler sur des interfaces musicales numériques, digitales, avec une approche lutherie numérique, c'est-à-dire vraiment conception d'interface, et avec trois grands principes. Le premier, c'est qu'on voulait faire quelque chose d'inclusif, de low cost et de slow do it yourself, c'est-à-dire quelque chose qui était abordable, qu'on puisse développer, qui ne soit pas dépendant de grandes compagnies, de majors, etc., qui ne coûte pas cher, qu'on puisse transformer en outil accessible à tous et à toutes, et qu'on puisse du coup mettre à disposition au niveau pédagogie, éducatif, c'est-à-dire pour une classe, sortir d'un équipement iPad de la marque à la pomme, pour être sur des choses qui coûtent peu cher, qu'on peut s'amuser avec et qu'on peut développer dans un environnement ludo-éducatif. Donc ce projet, au début, s'appelait MPEI, c'est-à-dire qu'on travaillait sur un nouveau format. Donc, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la musique, principalement lorsqu'on joue avec aujourd'hui un clavier ou un synthétiseur, on utilise la norme MIDI, c'est-à-dire une interface digitale musicale, tout simplement. Et depuis peu, la norme MIDI a évolué et elle a inclus de nouvelles méthodes de transformer le signal en incluant notamment des capteurs de pression. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer quelques instruments rapidement. Et donc, notre idée, c'est de travailler sur cette nouvelle norme et de construire des interfaces musicales adaptées. Donc ça, c'est le minimum protocolaire scientifique pour vous impressionner et vous dire qu'on a quand même bossé sur la question et qu'on a un petit peu, déjà publié dessus. Et avec une évolution du projet aussi, dont je vais parler après, sur la manière dont on peut envisager la continuité de ce travail aujourd'hui. Donc la question pour nous, c'était d'explorer d'abord les possibilités instrumentales qu'il y a autour de ces interfaces musicales expressives. Pourquoi l'exploration ? Parce que d'entrée de jeu, on s'est situé sur toute la chaîne de production, c'est-à-dire pas seulement l'instrument en soi, c'est-à-dire comment on va travailler une interface musicale. Donc on est un peu dans le domaine vous le verrez, de l'Internet des objets et aussi de l'interface homme-machine. Donc on ne voulait pas faire que l'interface, on voulait s'intéresser aussi au diffuseur, c'est-à-dire que dans toute la chaîne de construction d'un environnement numérique, on voulait aller jusqu'à la diffusion, c'est-à-dire comment on traite la problématique de la diffusion elle-même. Donc on a fait des tests, évidemment, avec du matériel existant, avec des instruments pionniers. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, donc il y a certains de ces instruments, comme le Continuum, qui sont sensibles à la pression, et donc en fait, avec un doigt, on est sur une bande, mais un petit peu comme les ondes Martenot, si vous connaissez. Mais avec en plus la pression, le XY et des principes de rotation. Donc tous ces paramètres interagissent en même temps, et c'est ça la nouveauté, si vous voulez, par rapport au synthétiseur d'avant. Je vous montre un tout petit extrait vidéo, mais je vais essayer de passer assez vite pour recoller au temps. Donc ça, c'est Gaël Navarre, qui est professeur de composition électroacoustique, et qui pilote et dirige une grosse partie du programme. ça, ce sont des démonstrations un peu plus commerciales, mais comme ça, vous percevez un peu l'idée des différentes possibilités. Donc aujourd'hui, on a aussi des interfaces qui prennent du bois, qui sont sensibles au toucher, des claviers en silicone aussi, donc qui sont développés, qui permettent vraiment une sensibilité à la pression. Et puis et vous voyez ici aussi le diffuseur en bois qui permet de traiter acoustiquement la diffusion du son et de faire du rayonnement plus que d'avoir une émulation par haut-parleur. Donc, dans le projet MPE, on a travaillé sur ce type d'interface en essayant de prendre tout en charge, c'est-à-dire la création de l'interface elle-même. Donc là, vous voyez par exemple un premier prototype qu'on a fait avec de la feutrine et du bois et de la mousse posée avec des capteurs sensitifs. Et puis, en travaillant sur des notions comme notion d'affordance, et d'une part, et d'autre part, la question du feedback gestuel et sonore.
Un truc. Et j'ai réussi à faire marcher ça.
Ouais.
Et la polyphonie aussi.
Donc là, il y a aussi un capteur infrarouge. Donc c'est des systèmes un peu basiques, en fait, qui sont en soi, qu'on retrouve dans d'autres types d'interfaces qui sont déjà distribuées dans le commerce. Mais l'idée, c'était d'arriver à faire quelque chose qui soit abordable et qu'on puisse reproduire. Donc là, un des paramètres sur lequel on a joué, c'est de travailler sur des notions de gestes, justement, musicales. Et aussi, surtout, de travailler la question du jeu, qui est pour nous centrale. C'est-à-dire comment, en abordant un instrument, et en termes de lutherie et en termes d'usage, comment est-ce qu'on imagine être en situation de jeu, dans tous les sens du terme que ça peut se prévaloir, c'est-à-dire le jeu en tant que technique musicale, mais le jeu en tant que plaisir, et en tant que amusement et de capacité à explorer les choses. Donc, en gros, sur la littérature, on va recouper, je pense, des choses sur le geste qu'on va retrouver dans d'autres communications et sur lesquelles vous avez tous un peu travaillé. Le fait qu'on se trouve sur des situations de jeu en situation de transfert d'énergie, d'une part. Ça, c'est une grande fonction de la musique. Le geste permet aussi de connaître son environnement, c'est-à-dire que le geste musicien permet d'avoir un retour appréciatif sur ce qui se passe et comment ça se passe. Et il a aussi une fonction sémiotique, c'est-à-dire que dans le geste instrumental, mais on va retrouver ça dans d'autres situations, je trouve, d'artisanat collectif. Moi, j'ai été très marqué aussi de voir un peu, on parlera tout à l'heure un peu de la verrerie de Biot, par exemple, qui est un environnement de travail collectif où il y a une sorte de communication tacite entre les différentes personnes qui sont à l'œuvre en même temps. Et donc, entre l'intention musicale et le son, le geste est un peu au centre et le son fait évidemment un effet retour avec l'intention musicale. Nous, en plus, on s'intéresse à la diffusion, c'est à ce qui se passe au niveau sonore vraiment, et avec pareil un retour. Et tout ça, ça s'inscrit dans un environnement que là j'ai un peu pompeusement intitulé ICAR, mais c'est pour dire qu'on est dans la salle ICAR. Mais l'environnement, c'est-à-dire à un moment donné, on doit prendre en compte toute la chaîne dans l'environnement de ce qui se passe. Les fonctions dont je viens de parler, l'énergie, la connaissance et la fonction sémiotique signifiante, elles interviennent à plusieurs endroits. Et le geste musical, il se décline lui-même, selon les définitions, en trois possibilités. La possibilité d'exciter un corps et de lui transmettre de l'énergie mécanique. La possibilité de sélectionner quelque chose, c'est-à-dire je change de touche sur un piano par exemple. Et puis, la possibilité de modifier, c'est-à-dire à la guitare, je fais une fois que j'ai fait mon excitation de corde, une fois que j'ai sélectionné ma case, je vais faire un bend pour modifier le son qui est maintenant sélectionné et excité. Donc tous ces éléments-là, il va falloir, pour l'interface gestuelle, les mapper, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que toutes ces catégories-là, elles vont passer par une interface qui à la base est inerte, et on va devoir transformer ces paramètres-là, ces gestes, en sons concrets. Et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à imaginer où se trouvent les différentes fonctions. Et donc il y a un travail qui a été effectué par une thèse de Andrea Giomi, par exemple, sur toutes les cartographies de mapping, et s'appelle la pensée sonore du corps, et pour comment en fait imaginer et voir in situ la manière dont les différentes situations de mapping permettent non seulement de créer du son, mais aussi d'avoir un retour sur le corps lui-même. Et ça, je crois que dans la journée, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que l'activité, cette notion est abordée par Thomas tout à l'heure, l'activité, le geste technique, crée aussi une connaissance de soi. C'est-à-dire qu'il a, par effet de retour, il rentre dans la dimension de la connaissance de l'environnement. Alors du coup, lorsqu'on commence à voir les chaînes de tout ça, on a, par rapport à notre schéma de tout à l'heure, si vous vous rappelez, on était juste sur l'intention, le geste et le son. Maintenant, avec le mapping, la recherche en informatique musicale, des diffuseurs qu'on doit paramétrer également, c'est-à-dire que le côté interface informatique va s'intéresser à tous ces paramètres-là et va voir comment on va pouvoir les coordonner et les mettre en relation. Et donc, à la fois en termes d'interface homme-machine, à plusieurs niveaux, que ce soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là, avec le fameux instrument MPE dont je parlais tout à l'heure. Donc au niveau de la conception de tout ça, pardon, évidemment, il y a des défis, et il y a deux nouveaux défis, c'est on s'est intéressé aussi à la composition, c'est-à-dire c'est bien beau d'avoir de la lutherie digitale, du numérique, etc., mais on voulait que ça soit ancré dans une dimension humaine de travail, c'est-à-dire pas de fascination pour l'objet technique, mais plutôt comment l'objet technique rentre au service d'une pensée musicale ici, ou au service d'une pensée d'action sociétale ou sociale dans un environnement pédagogique, etc. Et aussi une pensée d'interprétation, c'est-à-dire avec la dimension du jeu musical, encore une fois. Donc on a travaillé sur ce type d'interface capacitive, avec ici des feuilles de cuivre, en fait, qu'on a, ça c'est pour les premiers prototypes, qu'on a mis derrière des parois en verre, avec une autre évolution. Ici, donc, le passage en circuit, mais qui s'est avéré finalement peut-être un peu moins concluant que l'autre, parce qu'on a des interfaces magnétiques. Et ça, je vais en parler après. Et ça, c'est un système sur lequel on est arrivé. Alors ça, c'est pas fait à la maison, mais ça, oui, c'est le diffuseur. Donc un système, on a récupéré des game tracks qui sont plus du tout commercialisés, donc qui se vendaient en stock comme ça, d'occasion, voilà. Et l'avantage, c'est que c'est des jeux de golf pour ordinateur, donc avec des fils qui se tirent comme ça. C'est relié au poignet et en fait, avec ton interface par terre, et les cordons, ils sont en trois dimensions et ils sont sensibles aussi à la vitesse. Et donc, ça capte les mouvements. Donc, ce système-là, il est relié à ce petit boîtier qu'on a développé dans l'Université Côte d'Azur et l'ancien centre de création musicale. C'est un haut-parleur, en fait, qui a été imprimé maison, avec une carte informatique dedans, une batterie, et un petit programme Pure Data, pour ceux qui connaissent, et qui nous permet, en fait, de relier ça avec l'interface, et on peut donner ça dans une classe, par exemple. Et donc, chaque élève a son game track, qui est très, très rigolo, avec son petit haut-parleur, et on peut faire, tout d'un coup, un petit orchestre d'instruments numériques avec tous les élèves. Et cette fiche, c'est une fiche d'essai tactile, haptique, avec plein de matériaux pour les manipuler. parce que l'évolution du projet est maintenant de travailler sur le handicap et de voir comment, en situation de handicap, vision ou handicap moteur, on peut travailler sur une dimension haptique et des petits capteurs avec des matières qui permettent de générer en fait du mapping. On profite aussi d'une interface particulière au campus. On a une grande plateforme qui fait à peu près 200 mètres carrés. Donc là, vous voyez les systèmes haut-parleurs GameTrack. Et en fait, avec un OptiTrack, on travaille sur la captation du geste et du mouvement pour voir quels sont les résultantes sonores, spectrales, en fonction du geste utilisé, comment optimiser justement l'interface du mapping derrière et comment affiner le principe. L'étape d'après à développer, c'est pour moi d'utiliser une méthodologie croisée que j'avais déjà employée dans le cadre d'un projet ANR avec l'IRCAM qui s'appelait Geste Musical Model Experience. C'est d'utiliser des méthodes d'analyse qui sont issues d'un chorégraphe qui s'appelle Rudolf Laban, qui a beaucoup analysé la danse et qui a utilisé un diagramme qui a mis au point un diagramme qui s'appelle la structure de l'effort. Alors, la structure de l'effort, ce qui est intéressant, c'est que non seulement elle décline toutes les actions en fonction de verbes, d'accord ? Donc il y a frapper, pousser, fouetter, battre, donner un coup de patte, etc. Mais c'est surtout que ces verbes, ils intègrent dans leur conception la notion de poids et d'intention qu'il y a derrière, si vous voulez. Et la notion d'espace aussi. Ce qui fait que, par exemple, on avait travaillé sur cette catégorisation-là avec des percussionnistes pour affiner le jeu de timbales. Donc, sur un jeu de timbales, vous avez énormément de gestes, on a l'impression qu'ils font tout le temps la même chose, mais en fait, non. Ils ont une infinité de variations pour taper et frapper la timbale. Et en fait, on s'était aperçu que ce vocabulaire marchait plutôt bien pour décrire tout un tas de situations de jeu. Et qu'en plus, suivant les situations de jeu, ça avait une incidence spectrale réelle, c'est-à-dire qu'on modifiait vraiment le timbre de la timbale. Donc c'est un petit peu l'étape d'après. Et puis pour vous montrer très brièvement un cas de situation de jeu en classe. Et on conclura avec ça, je pense. Donc là, vous avez des enfants qui ont devant eux le système. Ouais, ils ont le système du haut-parleur connecté. Donc chacun a son haut-parleur. Là, c'est pas un iPad, c'est une vitre, en fait, avec un dessin. Donc c'est un conte musical que la maîtresse met en œuvre. Et derrière la vitre, on a mis le capteur sensitif qu'on a fabriqué là avec les feuilles de cuivre. Et donc les enfants, quand ils appuient sur la vitre, ils peuvent activer soit des sons, comme vous voyez ici, là, des sons électroniques qu'on a programmés. Ils peuvent aussi activer le nuage, le vent, les oiseaux, enfin tous les éléments du conte. Ils peuvent s'amuser avec, on peut changer la programmation. Donc ça peut activer le son du nuage et puis après, le geste va activer la musique, et suivant si on appuie fort ou pas, ça va plus ou moins avoir d'incidence sur la différenciation des éléments. Voilà, donc ça c'est un des exemples qu'on a mis en œuvre. Donc aujourd'hui on a une équipe musique qui est assez grande, qui implique beaucoup de collègues, et puis sur lequel en fait on a créé une forme d'atelier. Tout simplement, on arrive progressivement à mettre en place ces différents éléments. Voilà. Merci beaucoup à toutes et merci surtout pour Gaël Nava et puis pour l'implication de tous les partenaires de ce projet-là.
Donc merci beaucoup, c'était très intéressant et il y a beaucoup d'aspects. Alors je vais peut-être revenir sur le début de votre présentation et notamment, je l'ai noté quelque part. En fait, dans le projet PME, enfin, c'est très passionnant et je pense que ça conserve vraiment le geste. Donc c'est dans la thématique d'aujourd'hui, parfaitement. Et je me posais la question sur le savoir-faire. Parce que comme on a entendu parler juste avant, il y a les présentations et la table ronde qu'on aura cet après-midi, il y a beaucoup de choses par rapport au savoir-faire et au métier d'art. Et donc est-ce que pour vous, c'est un outil qui peut servir à des artisans ou à des gens du métier d'art, ou est-ce que c'est un risque? Enfin, comment vous voyez la chose? Merci.
Merci beaucoup. Vous voulez parler du, en général, le risque, c'est ça? La notion de risque. Oui. Est-ce que ça met en danger le savoir-faire? J'ai pas envie de répondre à la légère là-dessus, parce qu'il faudrait évidemment faire peut-être quelques études complémentaires. Ce que je peux dire, c'est que dans l'approche que nous avons, il n'y a pas de concurrence par rapport à des notions de savoir-faire, notamment pour de la lutherie traditionnelle équivalente. Il n'y a pas de concurrence dans le sens où justement on ne se place pas sur l'optique de dire nous on ne veut pas remplacer, on travaille sur des solutions qui peuvent être tout à fait concomitantes et associées avec de la lutherie traditionnelle justement. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver des moyens d'intégration et de réflexion et de connaissances supplémentaires dans les processus. Donc il n'y a pas de... En tout cas, c'est absolument évidemment pas pensé dans cette option-là. Comme c'est intégré en plus dans un dispositif cordé de la réussite, c'est-à-dire que dans le dispositif, on a les deux approches. On a l'approche traditionnelle, justement. Donc on est sur un collège un peu prioritaire, où on donne accès à des vrais instruments, donc le budget de l'accordé sert avant tout à financer, acheter de vrais instruments pour les collégiens, et ils apprennent de l'instrument classique, traditionnel, clarinette, il y a une harpe, il y a des guitares, voilà, on a tout un tas de postes, et ils font un orchestre avec ces instruments-là. Et à côté, en parallèle, il y a cette dimension un peu d'innovation sur un travail, et surtout sur une nature de travail qui est complètement différente, parce que là, en fait, on travaille sur des sons électroacoustiques. Et donc, la nature sonore elle-même définit enfin, un environnement qui est pas du tout le même que l'instrument traditionnel. Où est-ce que... ce que je veux dire. Oui.
Au niveau du processus créatif, est-ce que les enfants sont réceptifs plus ou moins par rapport à du traditionnel sur un environnement pédagogique comme une tablette? Ou enfin, est-ce que ça permet de simuler plus tôt ou être parmi des publics qui ont... peut-être moins cette connaissance-là plus rapidement?
Alors pour nous, c'est l'étape d'après, parce qu'en fait, maintenant, sur ce projet-là, on voudrait arriver sur du développement d'interface en niveau art-santé, dans le handicap. Et évidemment que là, on va passer sur des phases d'études. Là, on a le dispositif de haut-parleur, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Donc après, on peut refaire un point tous ensemble. Mais le dispositif de haut-parleur, on l'a mis dans un hôpital, par exemple, pour déficients cognitifs, pour justement avoir des protocoles, et après, derrière, pour voir comment articuler ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous pousse à nous questionner beaucoup sur, par exemple, la notation musicale. J'en ai pas parlé parce qu'on n'avait pas le temps. La notation musicale, les processus, la réception, tout un ensemble de paramètres de ce type. Et en fait, en retour, ça permet d'avoir des connaissances et une sorte d'ontologie aussi de ça, mais aussi de se repositionner aussi sur les instruments traditionnels, du coup. Merci beaucoup.